Chapitre 48. Un officier français me sauve la vie à Belœil. L'humiliation du clergé catholique romain fut inexprimable quand il apprit que j'étais décidé à passer un autre mois à Montréal et dans les environs pour y dénoncer ses impostures, ses idolâtries et ses erreurs. L'évêque Bourget fit des efforts surhumains pour m'acheter, mais il perdit son temps. Il sentit de plus en plus que j'étais non seulement incorruptible, mais encore à l'épreuve de ses menaces, de ses flatteries perfides et de sa rage impuissante. Par ses ordres, les prêtres inventèrent les plus horribles calomnies contre mon honneur. Mais dans la bonne providence de Dieu, ces calomnies se détruisaient invariablement elles-mêmes par leur propre absurdité et par l'absence de chacun des éléments sur lesquels leur vraisemblance aurait pu reposer. La médaille d'or placée sur ma poitrine, le titre d'apôtre de la tempérance au Canada qu'on m'avait solennellement donné, les vases sacrés en argent qu'on m'avait présentés le jour même où je quittais le Canada pour les États-Unis, les échos de ma voix qui vibraient encore entre les murs des cathédrales, les larmes que j'avais séchées, les cœurs que j'avais consolés, les merveilleuses réformes qui avaient été accomplies par tout le pays, l'ennemi géant du Canada que par la grâce de Dieu j'avais vaincu, étaient des faits que non pas moi, mais mon Dieu rappelait à la mémoire de mes compatriotes comme un antidote infaillible contre les flèches empoisonnées qui m'étaient lancées par l'évêque et les prêtres, flèches qui ne blessaient que ceux qui les lançaient. Pendant toute la semaine que je passais à Montréal, après mon retour de Québec, j'eus l'ineffable joie de voir ma chambre constamment remplie de l'élite de mes chers compatriotes qui voulaient entendre le message évangélique que le divin maître leur envoyait. J'eus aussi à bénir Dieu des marques journalières d'estime et d'affection chrétienne que je reçus de la part des protestants de toutes les dénominations. Les conférences du soir continuaient d'être suivies par autant de monde que la grande salle pouvait en contenir, sans aucune manifestation hostile. Il serait fastidieux de donner les détails des différentes missions évangéliques du mois suivant dans le district de Montréal. Je n'en mentionnerai que deux ou trois à cause de quelques circonstances intéressantes qui s'y rapportent. Un grand nombre de mes compatriotes de Belœil, Chambly et Saint-Mathias m'avaient prié de leur consacrer une semaine pendant mon séjour. Ils avaient choisi le splendide hôtel de la montagne de Belœil pour y tenir nos assemblées, car cet hôtel avait une grande salle qui pouvait contenir plusieurs centaines de personnes. Le gérant était un homme bien élevé qui avait été officier dans l'armée française. Il avait assisté à plusieurs de nos réunions françaises à Montréal où il avait bravement et publiquement abandonné les erreurs papistes pour suivre l'Évangile. J'étais donc sûr de trouver dans cet hôtel la protection que je désirais pour moi-même et ceux de mes chers compatriotes qui voulaient m'entendre. Je ne m'étais pas trompé. Le succès de ces conférences surpassa encore mes plus vives espérances. La grande et magnifique salle était remplie du matin au soir de gens de toutes conditions venus des quatre points cardinaux pour me poser des questions. Mais, dans les derniers jours, un fermier vint depuis Sainte-Marie m'avertir que l'un des prêtres avait dit en présence de quelques-uns de ses paroissiens « De même que vous avez le droit de tuer un loup qui traverse la prairie pour dévorer vos moutons, ainsi vous avez le droit de tuer ce misérable apostat chiniqui qui détruit notre sainte religion. » « Ne me trahissez pas, ajouta le bon fermier, mais soyez sur vos gardes quand vous verrez un homme portant un collet rouge. Il aura un pistolet pour vous tuer, s'il en trouve l'occasion, car il est excellent tireur. » Je le remerciai et je confiai mon secret à l'ex-officier français afin qu'il pût trouver un moyen de protéger ma vie sans faire aucun mal au meurtrier si possible. Parmi mes auditeurs, ce soir-là, c'était un samedi, je remarquai un fort gaillard de haute taille placé juste devant moi, à une distance de moins de 10 pieds, ayant un collet rouge. Sa tenue indiquait qu'il était à moitié ivre et plusieurs fois, il fit tant de bruit que je fus obligé de m'interrompre à cause de lui. J'avais à peine fini le dernier mot de mon discours qu'il marcha rapidement en fendant la foule et s'arrêta à environ 5 pieds de moi. Alors, avec un terrible juron, « C'est ton dernier discours, hérétique !» s'écria-t-il. Puis, tirant un pistolet de la poche de son paletot, il le braqua sur moi en proférant un nouveau blasphème. Mais l'officier français avait surveillé de près tous ses mouvements et était resté auprès de lui depuis qu'il était entré dans la salle. Prompt comme l'éclair, il tira son épée et en frappa un tel coup sur le pistolet qu'il vola presque jusqu'au plafond, mais le coup était parti et la balle avait cassé l'un des carreaux de la fenêtre en face. Cet attentat audacieux fut suivi d'une confusion indescriptible. Quelques-unes des femmes tombèrent en syncope, d'autres se mirent à pleurer, mais j'avais avec moi un certain nombre d'amis qui ne perdirent pas leur présence d'esprit. L'épée dans les reins, le misérable instrument des prêtres, fut promptement chassé, ou plutôt rudement emporté, à une assez longue distance, où il fut houspillé de manière à lui faire perdre toute envie de recommencer. Les semaines suivantes furent consacrées à Saint Pie, Sainte Marie, Saint Athanase, Saint Grégoire, avec les mêmes nombreux auditoires de catholiques romains qui, dans leur empressement à venir entendre la prédication de l'Évangile, méprisaient les excommunications, les interdits, les défenses et toutes les fulminations de leurs tyrans religieux. À Sainte Marie, j'eus la joie d'adresser la parole à la congrégation de convertis que les zélés et intrépides missionnaires baptistes de la mission de la Grande Ligne avaient arrachés au joug de Rome. Cette congrégation, composée de 30 familles, était alors sous les soins de M. Roussy, dont le nom sera béni aussi longtemps qu'il y aura un disciple de l'Évangile au Canada. Je ne pus retenir des larmes de joie quand je vis tant de mes chers compatriotes qui avaient secoué le joug de Rome, réunis dans leur chapelle. Ces intéressants convertis, ainsi que leurs pasteurs, étaient du nombre de ceux que j'avais le plus cruellement insultés et persécutés quand j'étais prêtre de Rome. Combien j'étais heureux alors d'avoir l'occasion de demander et d'obtenir leur pardon. Et combien mon cœur était rempli de joie de ce qu'il m'était donné d'unir ma voix à la leur pour bénir le cher sauveur de ses miséricordes envers nous tous. La dernière place du Canada que je visitais avant de partir pour ma chère colonie de l'Illinois fut Longueuil. Au milieu de cet important village, les baptistes avaient alors une école missionnaire prospère pour les jeunes filles, protestantes et catholiques, sous la direction du pasteur Théodore Lafleur. Plusieurs citoyens de l'endroit profitèrent de ma présence dans leur village pour venir me demander 1000 questions sur ce qu'ils appelaient ma nouvelle religion et me fournir ainsi une occasion de leur présenter les vérités salutaires de l'Évangile. La première nuit, quelques gamins catholiques romains, envoyés par les prêtres, nous causèrent quelques troubles en jetant des pierres contre les fenêtres et en brisant quelques vitres. Mais la partie honnête de la population fut indignée de cet acte de lâcheté brutale. Le soir suivant, ils vinrent en grand nombre entendre la conférence que je leur donnais dans la salle publique de leur village. Et bien qu'ils fussent excommuniés et chassés de l'église de Rome par leur présence, ils furent si satisfaits des preuves que je leur donnais de l'imposture de leur pape, de leurs évêques et de leurs prêtres, qu'il était minuit avant qu'ils consentissent à s'en aller. Bien peu quittèrent la salle sans me serrer la main et sans me remercier de ce qu'ils avaient entendu. Et le silence, la tranquillité parfaite qui régna pendant toute cette soirée, nous dit clairement que nous étions non seulement au milieu d'un peuple respectable et intelligent, mais encore parmi de vrais amis. Et c'est ainsi que, seul et humainement parlant sans protection, j'avais été capable de braver pendant 2 mois la puissance perfide du pape dans ses citadelles de Montréal et de Québec. Mais je n'étais pas seul. Non. Car la main protectrice de mon Dieu avait été visible pour me garantir pendant tout ce temps.